This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire ou quand le jazz retrouve des repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand. Cette année-là, en 1974, il est un pays encore en dictature et pourtant d'Europe de l'Ouest. Il s'agit du Portugal. Il va se passer un événement marquant, puisque ça va être un basculement pour ce petit pays de la péninsule ibérique, puisque une révolution va avoir lieu le 25 avril 1974, appelée la révolution des œillets. Alors, quelle est la situation du Portugal à ce moment-là? Eh bien, c'est un pays qui est en quasi-dictature. Le dictateur Salazar vient de céder la place à Marcelo Caetano et c'est ce monsieur qui va subir l'assaut des capitaines, ainsi que nous le précise Alexandre Adler.
« 25 avril 1974. » Petit cap oublié à l'extrémité occidentale de l'Europe, le Portugal vient de basculer en une nuit vers la liberté et vers la paix. Une poignée de jeunes officiers, organisés dans une structure clandestine, le mouvement des forces armées, le MFA, viennent de prendre le pouvoir à Lisbonne et de mettre ainsi fin à la plus vieille dictature conservatrice de l'Europe, après près d'un demi-siècle de simili-fascisme et 12 ans de guerre coloniale sanglante en Afrique. Successeur de Salazar depuis 1968, le PAL Marcelo Caetano capitule et quitte le pays dans la journée. Il est remplacé par le chef du MFA, l'aristocratique général Antonio de Spinola, qui annonce la tenue proche d'élections démocratiques. C'est la liesse, unanime. Un peuple entier retrouve le XXe siècle sans aucune effusion de sang. En réalité, derrière la rassurante présence du conservateur modéré qu'est Spinola, c'est la jeune génération des officiers de l'armée, travaillé en profondeur par le Parti communiste depuis la fin des années 50, qui a renversé la dictature. Comment une telle dynamique, tout à fait imprévue, s'est-elle mise en place au cœur de l'armée? Premièrement, il s'agit d'une armée instruite. Dans un pays où les étudiants, particulièrement les ingénieurs, ne trouvent que peu de débouchés dans une économie languissante, l'armée a recruté un grand nombre d'officiers très diplômés et peu conformistes. De surcroît, les Portugais d'outre-mer sont particulièrement nombreux dans ces rangs. Nés dans un tiers-monde pauvre dont ils se distinguent à peine, ils sont plus sensibles que bien d'autres Européens aux idées tiers-mondistes de leurs adversaires, les mouvements de libération africains. Le commandant Otelo de Carvalho, la cheville ouvrière et gauchiste du complot, est ainsi né au Mozambique. Ces orphelins de l'Empire ont commencé à se forger dans les popotes isolées de la brousse africaine, une doctrine alternative aux vérités officielles. À ce premier facteur s'ajoute l'évidente misère portugaise du début des années 70. Une dictature oppressive qui règne sans partage depuis 1928 sur un pays où le sentiment républicain inspiré de la France a toujours été puissant. De plus, depuis 1962, une guerre coloniale épuisante déprime comme une maladie tropicale la totalité du corps social, la jeunesse en particulier, qui quitte massivement le pays pour échapper à un long et dangereux service militaire au cœur de l'Afrique. Ce colonialisme en guenilles aura plus que tout raison du régime en faillite de Salazar et Caetano. Celui-ci est en réalité mort dans la course pour avoir, contre tout bon sens, voulu garder le plus vieil empire colonial de l'Europe sans en avoir les moyens.
Voilà, c'est une vendeuse de fleurs du Rocio, la grande avenue de Lisbonne, qui offre aux soldats les fleurs de saison qu'elle a à vendre, et ce sont des œillets. C'est ainsi que le lendemain du 25 avril, un journal parisien, Le Monde, sort en première page « La révolution des œillets triomphe au Portugal ». C'est ainsi que le nom fut attaché à cette prise de pouvoir. Alors on va écouter le morceau qui a donc déclenché cette insurrection, puisque la station catholique oui, je dis bien catholique, Radio Renascença, je garantis pas la prononciation, diffuse donc le 25 avril une chanson de Zeca Alonso qui va donner le signal de l'insurrection contre le régime salazariste.
Prendo la Villa Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.
Voici la traduction du premier couplet de cette chanson. Grandola, ville brune, pays de fraternité, c'est le peuple qui commande ici, ô cité. Et s'en suivent quelques 8 ou 9 couplets. Et c'est ainsi que c'est au son de cette musique que la révolution va se dérouler, sous l'impulsion du capitaine, puisqu'il est du major, Otelo Sarriava de Carvalho, qui donc a été celui qui a cristallisé la révolution, sachant qu'ensuite les généraux d'Espinola et Gomez ont apporté leur soutien. Mais c'est ce jeune major, ce jeune capitaine qui a donc déclenché le mouvement, et il nous explique comment.
Capitaine Otelo de Carvalho, vous faites partie du mouvement des capitaines.
Oui, oui, oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine du mouvement des capitaines?
L'origine du mouvement, oui, c'est un peu difficile, mais je crois que je peux vous dire qu'en juillet, de l'année dernière, en 13 de juillet, le ministre de la Défense nationale a fait publier un document dans lequel il nous a... qui a provoqué toute une réaction de la part des officiers, des jeunes officiers, majeurs et capitaines de l'armée portugaise. Dans ce document, il a été beaucoup mauvais pour nous, pour notre carrière, des complications immenses pour notre carrière d'officier.
Et vous avez gagné la révolution avec combien d'hommes?
Beaucoup. Moi, simple majeur, j'ai mouvementé.
Vous avez
une armée complète.
De combien d'hommes?
Du nord au sud du pays, peut-être 4000 hommes.
Et vous avez investi Lisbonne avec combien d'hommes? Investi, pris Lisbonne.
Peut-être 3000, je crois. Parce que d'après l'Amego,
oui.
Dès l'Amego, extra l'Amego, jusqu'à Faro, j'ai fait converger toutes les unités sur Lisbonne. Mais même à Lisbonne, j'ai eu des objectifs essentiels, les organes d'information, comme
L'émisseur national,
Radio Club Portugais, Radio Télévision, etc.
Et comment a réagi le simple soldat quand vous avez dit...
Très bien.
Vous avez donné
très
l'ordre
bien.
De marcher.
Très bien.
Ils étaient au courant?
Non. Il ne savait pas, mais il pensait qu'il y en a quelque chose. Comme Caldas, mais...
Qu'est-ce que vous leur avez dit quand vous leur avez dit dans la nuit de partir? Qu'est-ce que vous avez dit?
Je n'ai dit pas rien, j'étais au PC. Oui. Mais j'ai commandé les commandants qui ont dit quelque chose.
Qu'est-ce qu'ils ont dit aux soldats?
Je vois qu'ils ont dit que nous allons faire une révolution. Maintenant, vous êtes avec nous. Et nous allons gagner ça jusqu'au bout.
Est-ce que vous avez peur du 1er mai?
Oui, j'ai peur. Maintenant, personnellement, j'ai peur du 1er mai parce que... Merci. Parce que nous croyons même qu'il y en a des agitateurs, d'extrême droite, d'extrême gauche, qui pouvons faire des grèves, des agitations, des meurtres même.
Et quelle est la position du mouvement des capitaines vis-à-vis de l'Afrique, où je vous ai connu en Guinée?
Ah oui, oui. Oui, nous sommes pour la restauration immédiate, c'est possible, mais ça, c'est impossible, je crois, mais c'est possible, la restauration immédiate de la paix en Afrique.
Voilà, une prise de pouvoir qui donc se traduira sans aucune effusion de sang, et même si la police... le PID, qui était donc la police secrète, redoutable, n'a pas craint à un moment donné d'ouvrir le feu sur la population, faisant ainsi 4 morts et 45 blessés. Mais le mouvement des forces armées, donc, lui, n'a pas tiré un seul coup de fusil. Et c'est donc pas au bout... On a cette image qu'au bout des canons, au bout des canons des fusils, donc, il y avait un œillet. C'est l'image, on se souvient de cette photographie très significative, et qui a fait le tour du monde. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, eh bien, l'amnistie générale est décrétée, et donc tous les exilés, tous les gens qui ont dû partir, tous les Portugais qui se sont exilés, notamment en France, pour certains socialistes, eh bien, vont revenir au Portugal, et c'est ainsi que, peu à peu, un certain nombre de membres de partis politiques vont reconstituer ces partis et donc prétendre à, évidemment, une démocratie parlementaire classique. Oui, c'est ainsi qu'on a pu constater le retour, avec un document, le retour de Mário Soares, qui allait devenir par la suite président de la République portugaise.
Une amnistie générale a été décrétée par la junte. Dimanche 28 avril, gare de Santa Polonia, 2000 personnes environ attendent le retour du premier grand exilé politique à rentrer, le secrétaire général du Parti Socialiste, exilé depuis 4 ans, Mário Soares. Il arrive de Paris par le Sud Express.
Je vous remercie tous de votre présence ici en ce jour mémorable. Et mes premiers mots seront pour ceux qui ne sont pas encore ici, ceux qui n'ont pas la joie de vivre ces moments. Mes premières paroles sont pour Antonio Luis Gomez.
Autre socialiste portugais émigré au Brésil.
Não, não é para prevenir.
O senhor general está esperando um momento.
E a guerra na África? Vai falar sobre isso?
aspirations politiques immédiates?
Non, personnel, aucune. De mon parti, pour le peuple portugais, oui, beaucoup.
La première personne que salue Soares est le général Spinola, qu'il retrouve au ministère de la Défense.
Monsieur Soares, quel sera l'avenir du Portugal?
J'espère qu'il sera un avenir démocratique et libre.
Est-ce que vous allez coopérer avec la junte?
Bien sûr.
Est-ce que vous allez collaborer avec la junte?
Nous allons aider la junte dans la mesure de nos possibilités pour le rétablissement des libertés et pour mettre un terme rapide à la guerre coloniale. Vous n'avez qu'à lire le programme de la junte pour voir que c'est ainsi. Bien sûr.
Soares ouvre la voie au retour massif. Par milliers, par dizaines de milliers, les Portugais qui s'étaient exilés rentrent par tous les moyens.
Voilà, donc cette année 74 va être extrêmement mouvementée. Le mouvement des forces armées, donc, le Conseil de la Révolution de ce mouvement, va donc tenter l'année suivante une sorte de coup d'État, le 25 novembre 1975, et donc malheureusement, ce coup d'État échouera parce que le tissu sociopolitique est en train de se reconstituer et les officiers modérés et les partis démocratiques reprennent très vite l'initiative et donc écartent l'extrême gauche du mouvement des forces armées. Et une nouvelle constitution sera d'orientation sociale et démocratique va voir le jour le 2 avril 1976 et les élections législatives qui suivront consacreront le triomphe de la démocratie parlementaire. La situation politique du pays évoluera et verra ensuite l'entrée du Portugal dans l'Union européenne en 1986. Peut-être qu'aujourd'hui, cette participation est un petit peu remise en cause compte tenu de l'austérité qui est imposée actuellement au Portugal. En tout cas, ça a fait de ce pays un pays tout à fait normalisé à l'image de l'ensemble des autres participants à l'Union européenne. Alors cette année-là, en 1974 donc, eh bien, un musicien, il s'agit de Jerry Mulligan, va tenter une expérience qui va être parfaitement réussie en rencontrant, musicalement s'entend, Astor Piazzolla. Et donc, tous deux vont constituer un groupe et un duo, notamment avec des accompagnateurs, bien évidemment. Et ils vont se produire dans presque le monde entier. Ils vont tourner avec cette idée, cette musique, ce mélange de jazz et de tango. Et je vous propose d'écouter un morceau significatif de ce mélange, de ce métissage, Réunion Cumbre. Thank you. Astor Piazzolla et Jerry Mulligan. Piazzolla au bandoneon, Jerry Mulligan au saxophone baryton. Alors, quelques mots sur Jerry Mulligan, donc né en 1927 et décédé en 1996 à l'âge de 69 ans. Musicien très complet, jouant du baryton, du soprano, pianiste également, chef d'orchestre, compositeur, arrangeur. C'est un musicien d'une stature exceptionnelle que Mulligan. Il a créé un style de jazz, ce qu'on a appelé le cool jazz. C'en était un petit peu le chef de file avec un autre musicien, Chet Baker, le trompette, avec qui il avait d'ailleurs créé une formule assez inattendue qui était un quartet sans piano. C'est ce qui les a un petit peu fait connaître. Quant à Chet Baker, donc son complice dans cette aventure du cool jazz, eh bien, Chesney Henry Baker Jr., surnommé Chet Baker, donc né à Yale en 1929, est décédé malheureusement prématurément à Amsterdam à l'âge de 59 ans, qui jouait de la trompette, du bugle, qui chantait. Alors c'est un chanteur tout à fait étonnant, qui scatte avec un registre assez bas et dans les aigus. C'est un très grand spécialiste de la chanson de ballade. C'est un musicien qui a eu deux périodes dans sa vie, jusqu'en 66, puis là il a eu... sa fréquentation des dealers à cause de la drogue lui a valu une traversée du désert puisqu'il a eu la mâchoire fracassée et que donc entre 73 et 77 eh bien, il a dû s'interrompre pour reprendre une carrière normale par la suite. Alors ces deux musiciens en 74 vont donner un concert Carnegie Hall, la grande salle de concert de New York, et ils vont jouer un thème que tout le monde connaît, c'est un standard, mais à leur façon, dans ce style un petit peu presque chuchoté. Il s'agit de « My Funny Valentine ». Thank you. Avant-dernier épisode de cette année 1974, il nous restera un dernier épisode à investir, mais bien entendu, et comme à l'habitude, ce sera une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.